8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Jordan Bardella, député européen du Rassemblement National et tête de liste pour les régionales en Ile-de-France.
Une chose après l'autre. Bienvenue à vous, bonjour Jordan Bardella.
Bonjour.
Transfert de patients pour soulager les services de réanimation, déprogrammation d'opérations en Ile-de-France. L'exécutif tente de tenir sur un chemin de crête pour éviter le reconfinement. Est-ce la bonne stratégie ?
On voit bien qu'on n'est pas tant sur un rebond épidémique en soi qui est plutôt stable. C'est-à-dire qu'on est plutôt sur un plateau, même si les indicateurs augmentent très largement. Mais on voit bien qu'on est dans une crise de capacité hospitalière. Mon département de la Seine-Saint-Denis, qui a 1 600 000 habitants, a, rendez-vous compte, 100 lits de réanimation. Moi, j'entendais le docteur Kierzek de l'hôpital Dieu, qui est médecin urgentiste, indiquer qu'entre les gens qui entraient chaque jour en réanimation et les gens qui sortaient, il nous manquait en moyenne une cinquantaine de lits par jour. Donc on voit bien qu'on a été sous-doté pendant des années, qu'on paye le sous-investissement constant et la suppression de lits. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron en 2018 supprimait 4500 lits dans l'hôpital
public.
Mais
aujourd'hui, que fait-on ?
Et que on est en train de payer le fait que depuis un an, alors que nous sommes dans une crise épidémique majeure, le gouvernement n'a rien fait pour empêcher la paralysie et que nous avons les mêmes capacités hospitalières qu'il y a un an.
Donc, vous savez ce que vous répondent la plupart des spécialistes, Jordan Bardella, qu'il faut malheureusement beaucoup de temps pour créer ces lits, pour former les personnels justement à la gestion de ces lits ?
Certes, mais nous avons procédé au mois de septembre, et le gouvernement a procédé au mois de septembre à la suppression de lits de réanimation, de lits qui avaient accueilli des patients Covid. Je pense notamment à la cinquantaine de lits de l'hôpital de Juvisy dans l'Essonne, en Ile-de-France, qui ont donc été supprimés. Donc, dans l'immédiat, il faut recourir massivement et autant que nous le pouvons aux cliniques privées. On se souvient qu'au printemps dernier, il y a eu une véritable cacophonie.
Mais est-ce qu'on le fait suffisamment ?
On ne peut pas. Ah bah, écoutez, moi j'ai entendu il y a une dizaine de jours le président de la Fédération de l'hospitalisation du privé indiquait qu'il pouvait, que le privé, que les cliniques pouvaient en tout cas accueillir jusqu'à 20 à 30% d'admissions en réanimation en plus. Donc, on voit bien que tout n'a pas été en tout cas mis en œuvre.
Qu'est-ce qui bloque ? Attendez, on fait quand même des transferts de patients qui sont dans des situations parfois extrêmement compliquées et délicates, et vous nous dites qu'on ne s'appuie pas suffisamment sur le privé. Qu'est-ce qui bloque ?
Écoutez, c'est pas moi qui le dis, ce sont un certain nombre de médecins, à commencer par les responsables eux-mêmes des cliniques privées. On se souvient que lors du premier confinement au printemps dernier, alors que les hôpitaux publics étaient saturés, les cliniques étaient vides. Donc, comment peut-on concevoir des transferts de patients qui ressemble plutôt à des opérations de com, parce que le bon sens voudrait plutôt qu'on fasse venir à la fois du personnel hospitalier et du matériel vers les zones de tension, plutôt que ces opérations qui sont extrêmement coûteuses, qui sont faites dans des TGV classiques et qui demandent énormément de moyens. Donc il faut...
Mais comment faire aujourd'hui avec ces capacités-là ? Maintenant qu'on a ces capacités, quelle alternative, monsieur le député européen ? L'Italie reconfine dans l'urgence ce lundi, l'Allemagne voit le nombre d'infections exploser, l'Espagne durcit très sévèrement les restrictions. Que faire ?
Le point commun entre tous les pays que vous venez de citer, c'est que ces pays appartiennent à l'Union européenne. Et que les ratages absolument dramatiques de l'Union européenne en matière vaccinale sont évidemment criminels. Parce que moi, j'entends parler de passe sanitaire, j'entends parler de passe vaccinale, alors même que nous avons vacciné à peine 7% de la population européenne. Et que le véritable problème aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas de vaccin.
Vous savez combien la Russie a vacciné ?
Et que. Dites-le-moi.
Non, la Russie, par exemple, c'est hors. On est d'accord.
Oui.
Très très peu.
Oui, mais la Russie a un territoire
extrêmement
qui est...
peu.
Oui, mais la Russie. Enfin, je
non,
pense pas
si
que la situation.
Non,
mais je pense pas que la situation russe soit similaire à la situation française. La Russie est un territoire gigantesque où
les
évidemment
ont
la
des
densité urbaine. Non, mais la densité urbaine est beaucoup plus faible. Si vous voulez prendre un pays en termes de composition qui peut-être être équivalent en termes de concentration urbaine, Israël, par exemple, ou le Royaume-Uni qui est hors de l'Union européenne a vacciné 20 millions déjà d'habitants de sa population.
Israël, Jordan,
Israël
Bardella,
a vacciné déjà 80%
de la population. Contre des données, vous l'auriez fait ?
Non, mais il ne s'agit pas d'échanger des données contre les vaccins.
Attendez, c'est comme ça qu'ils ont eu plus de vaccins.
Non, mais regardez,
est-ce que vous
je dis juste qu'aujourd'hui, l'Union européenne, et c'est vrai, a raté totalement les commandes de vaccins, qu'elle a totalement été opaque dans les négociations, et fait qu'aujourd'hui, on est la risée du monde, on subit une véritable débâcle vaccinale, et cela a évidemment des conséquences à la fois sur notre situation sanitaire et sur la reprise économique. Maintenant... il y a des pays qui se débrouillent. Voilà, il y a des pays qui trouvent des alternatives. L'Autriche est en train de développer un partenariat commercial avec Israël pour récupérer notamment des vaccins qui ne seraient pas utilisés. Je vois que la Hongrie s'est tournée vers la Russie, que la Pologne s'est tournée vers la Chine afin de pouvoir acheter directement des vaccins. Or, la France ne fait rien de tout cela. Donc, on a le sentiment qu'on est paralysé, que ça fait plusieurs semaines maintenant qu'on attend des choses de bon sens, à savoir l'autorisation pour les pharmaciens de vacciner. Eux-mêmes le disent, on peut vacciner 400 000 à 500 000 personnes
par jour.
Ça n'est pas fait. vous développer massivement les autotests et évidemment recourir autant que possible au privé parce qu'on
vous
ne peut pas, si vous voulez, évoquer un reconfinement alors même que les lits dans les cliniques privées sont vides.
Vous avez dénoncé un Waterloo vaccinal en ce moment, mais est-ce que ça peut se transformer en victoire d'Austerlitz d'ici à la fin de l'été ?
Écoutez, je le souhaite. Moi, je souhaite.
Pardonnez-moi, vous êtes défaitiste à l'instant T, mais si à la fin de l'été.
Je ne suis pas défaitiste, c'est la situation qui est défaitiste, madame.
Waterloo, c'est quand même la défaite.
Oui, mais quand on voit aujourd'hui, encore une fois, c'est pas moi qui le dis, mais.
Si tous les Européens, dont les Français, sont vaccinés d'ici à l'été, est-ce que vous diriez que c'est finalement Austerlitz et que ce serait peut-être une victoire pour nous tous ?
Écoutez, je ne vais pas me réjouir de cette situation. Évidemment qu'on veut tous s'en sortir. Et évidemment que, comme vous et comme nos compatriotes, je souhaite qu'on puisse se sortir au plus vite de cette crise. Parce que chaque minute qui passe, chaque vaccin qui n'est pas livré, c'est une entreprise qui met la clé sous la porte. Voilà. Et c'est une entreprise qui a de plus en plus de mal à faire face à un PGE qu'ils auront du mal à rembourser, à faire face à des charges qui sont exponentielles et dont beaucoup, et je pense notamment à nos restaurateurs, ne voient plus le bout du tunnel. Donc, il faut pouvoir, évidemment, aller assez vite sur le développement des autotests.
Et vacciner.
En réalité, il faut vacciner.
Est-ce que vous le diriez ?
Mais je le dirais, bien sûr, je le dirais. Je montrerai l'exemple si nécessaire.
Ah, vous montreriez
lorsque
l'exemple.
Je le pourrais.
Parce qu'il y a quelques mois, j'ai retenu votre phrase, Jordan Bardella, lorsque j'estimerai avoir été rassuré, peut-être que je me ferai vacciner.
Oui, et je disais cela dans une période, vous aviez reçu d'ailleurs, je crois, quelques jours avant Axel Kahn, le président de la Ligue contre le cancer, qui dénonçait l'opacité dans laquelle se faisaient les négociations, ou même Alain Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement, n'était pas franchement très rassurant sur la vaccination. Donc évidemment que la vaccination est une porte de sortie majeure. On voit qu'en Israël, la large vaccination de la population a permis, encore une fois, ce sont des faits, ce week-end en tout cas, de remettre en place des concerts, des matchs, de pouvoir aller au restaurant, de pouvoir ouvrir les centres commerciaux. Mais quand on voit aujourd'hui la manière dont cela est géré au niveau européen, on se dit qu'on aurait peut-être mieux fait de négocier directement avec les laboratoires. Et pardon, on paye aussi l'abandon de notre souveraineté. La France est le seul pays du Conseil de sécurité de l'ONU à ne pas avoir de vaccin.
Mais
quand Moderna a eu 5 milliards d'euros...
Nous recevrons dans quelques jours le patron de Sanofi à votre place. Ils sont en train de développer un vaccin, soyons optimiste, on ne sait jamais avec une technologie aussi.
Mais on voit bien que la technique initiale, qui était la technique classique de vaccination, a été abandonnée au profit de l'ARN messager et que aujourd'hui le rythme de vaccination actuel, pour répondre à votre question, ferait que nous serions sortis de crise en juin 2022 d'après Covid Tracker. Donc il faut évidemment accélérer. Et moi je vois que l'Italie, vous citiez l'Italie, organise sur son territoire des usines pour pouvoir produire notamment le vaccin Sputnik. Or on s'est interdit de se tourner vers la Russie pour des raisons bêtement idéologiques.
Revenons à l'Île-de-France, Jordan Bardella, et au sujet de l'insécurité. C'est l'un des sujets majeurs des élections régionales avec les rixes entre bandes, la violence des plus jeunes. Hier encore, une policière menacée et agressée à Champigny-sur-Marne. Et vous jugez que la présidente de la région, Valérie Pécresse, a eu la main molle. Qu'est-ce qui vous fait dire ça alors que, par exemple, elle veut notamment rendre obligatoire les polices municipales armées ?
Oui, mais lorsqu'elle était... ministre du budget sous Nicolas Sarkozy, elle a participé de la suppression des 12 500 postes de policiers et des gendarmes qui font évidemment défaut aujourd'hui en Île-de-France. Donc si vous voulez, c'est bien aujourd'hui de pleurer sur le lait renversé. Maintenant, si j'étais président de la région Île-de-France, c'est une mesure que nous avons proposée, que nous allons budgéter, eh bien nous doterions, encore une fois dans le cadre des compétences de la région, chacune des gares de la région Île-de-France, à la fois des stations de métro et des gares RER, de deux agents de sécurité armés qui permettraient évidemment d'assurer la sécurité dans les gares, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la région a compétence à la fois des transports et des lycées, que ce sont des points d'insécurité extrêmement majeurs. On voit bien aujourd'hui que l'État a failli, voilà, et qu'il n'y a qu'un État en faillite qui laisse aujourd'hui dans notre pays des bandes s'affronter dans l'impunité générale, des policiers, comme c'était le cas de cette policière à Champigny qui a été étranglée dans l'impunité, et ces gens-là le font parce qu'ils savent qu'ils ne risquent rien. Donc il faut un tour de vis en matière pénale, et il faut aujourd'hui réarmer matériellement, humainement et moralement nos forces de l'ordre.
C'est intéressant ce que vous dites, réarmer même matériellement. Pourtant, le Rassemblement national a toujours refusé, Jordan Bardella, de voter le programme du bouclier de sécurité pour financer dans la région Île-de-France la vidéosurveillance, les équipements des commissariats, bref, pour mieux lutter contre l'insécurité.
Non, c'est faux. Nous avons voté au cas par cas un certain nombre de ces dispositifs.
Mais pas l'ensemble.
Et nous nous sommes abstenus sur le texte dans son ensemble parce qu'on voit bien que les collectivités aujourd'hui sont en train de pallier l'incapacité de l'État à assurer ses missions.
Pourquoi ne pas déjà voter cela ?
Si vous voulez, non mais moi je suis extrêmement... Quand quand j'entends, si vous voulez, le candidat de M. Macron, qui est candidat de La République En Marche aux élections régionales en Ile-de-France, expliquer qu'il faut maintenant mettre en place des sociétés privées, des sociétés privées à qui on confierait la sécurité et des missions régaliennes de l'État, enfin, je veux dire, ces gens-là sont des liquidateurs. C'est-à-dire qu'on confie à la fois notre politique vaccinale à l'Union européenne, on confie les missions de l'État à des sociétés privées, on brade tout à la découpe, et donc, je veux dire, il n'y a qu'un État en faillite qui laisse faire cela. Donc, si nous arrivons aux responsabilités, que ce soit dans les régions ou que ce soit à la tête du pays en 2022, eh bien, nous remettrons de l'ordre et nous rétablirons l'autorité de l'État, parce que je crois que c'est ce qu'attendent aujourd'hui nos compatriotes. Et pour cela, il faut évidemment soutenir nos policiers et effectuer un tournant en matière pénale. Voilà, fini le laxisme, fini l'impunité et tolérance zéro avec les voyous et les criminels.
Invité à réagir, Jordan Bardella, à ceux qui la qualifient de xénophobe, Marine Le Pen a rejeté vigoureusement de telles accusations, ajoutant, je cite, ce sont ses mots, « Quand vous voyez que je suis arrivée en tête aux Européennes en Outre-mer, vous vous rendez compte que ces accusations de xénophobie n'ont aucun intérêt, dit-elle. » Mais la xénophobie, nous sommes d'accord, vous et moi, c'est le rejet de l'étranger. Est-ce que les Français ultramarins sont étrangers à
non,
vos yeux?
Non, pas du tout, mais elle a commis un petit lapsus, et d'ailleurs BFM TV lui a permis de s'en expliquer, nos concitoyens l'ont parfaitement compris. Elle disait simplement, si vous voulez, que les accusations de racisme qui sont encore utilisées, mais d'une manière dérisoire par quelques opposants politiques, n'ont pas lieu d'être.
Le
quand
racisme,
on voit que
c'est la
à
couleur
chaque
de peau.
Élection.
La xénophobie,
voit,
c'est le rejet de l'étranger.
Exactement, mais elle a commis un petit lapsus, elle s'est rectifiée quelques minutes plus tard. BFM TV lui a permis de s'expliquer, parce que tout le monde a bien compris que c'était un petit lapsus, et elle disait simplement qu'elle est extrêmement attachée à l'Outre-mer, et quand on voit effectivement les scores qu'elle réalise en Outre-mer, je vous rappelle que nous sommes arrivés en tête en Outre-mer à la fois lors des élections présidentielles et à la fois lors des élections européennes, eh bien on voit bien que ces accusations de racisme qui sont encore utilisées par quelques militants de gauche et d'extrême-gauche n'ont absolument aucun sens, et que notre projet en tout cas est de rassembler tous ceux qui se reconnaissent aujourd'hui dans la citoyenneté, la nation française, sans distinction de race, d'origine ou de religion, et je vous remercie de me permettre de le préciser.
Merci Jordan Bardella d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs, bien sûr.